Le thème de cette première table ronde, vers l'émergence d'un nouveau modèle de croissance. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Eric Israelevitch, je suis le directeur des rédactions de La Tribune. Je vais donc animer ce débat. Pour ce débat, nous avons à La Tribune quatre participants, quatre personnalités qui ont un point commun, c'est que, notamment, je dirais, un point commun, c'est qu'ils ont tous travaillé sur le rapport connu sous le nom du rapport Daniel Cohen sur l'émergence de nouveaux modèles de croissance, qui a été publié il y a quelques semaines, qui a été un travail collectif, qui a été fait au sein du Centre d'analyse stratégique, centre qui est rattaché au Premier ministre. Alors, ces quatre personnalités, je vais vous les présenter. À ma gauche, donc, Cécile Joly. Cécile Joly, qui est membre du Centre d'analyse stratégique. Qui a été justement rapporteur de ce rapport, je crois, mais qui a eu la responsabilité d'autres rapports auparavant, qui à l'origine, je crois, est une spécialiste du monde arabe, mais qui a mal tourné, qui a dérivé vers l'économie internationale et vers les questions de développement durable, qui enseigne maintenant aussi, je crois, à Dauphine, qui a publié récemment un livre sur l'entreprise responsable et qui a participé à un ouvrage sur Méditerranée 2030. À sa gauche, donc à votre droite, Henri Rouillot, qui est économiste, qui est chargé de mission auprès de la secrétaire générale de l'INSEE, qui est également, je crois, conseiller auprès du commissaire européen aux affaires sociales à Bruxelles, qui dans le passé a eu une activité dans les cabinets ministériels auprès de Pierre Bérégovoy puis de Michel Rocard, qui a également été le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui lui aussi a publié plusieurs ouvrages qui, ai-je appris, travaillent sur où va la démocratie sociale. Enfin, c'est à venir, donc attendez encore un peu, ça viendra. Complètement à ma droite, Lionel Ragot, qui est également économiste, qui est professeur d'économie à l'université de Lille 1, qui donc a également participé à ce groupe de travail et à ce rapport, qui est spécialiste de l'économie quantitative notamment, qui participe à plusieurs centres de recherche à ce titre, et qui est également conseiller scientifique auprès du Conseil d'analyse économique. Autre conseil auprès du Premier ministre. Alors, nous attendons, et en fait, je pensais que le temps de ces présentations, Bettina Laville aurait eu le temps de nous rejoindre. Elle était à la gare au moment où j'ai commencé. Donc, Bettina Laville va nous rejoindre. Bettina Laville est avocate, est aujourd'hui avocate au cabinet Landwehl et Associés, où elle est responsable du secteur et des questions de développement durable. Elle travaille depuis longtemps sur ces questions, puisque elle avait été conseillée sur ces questions d'environnement auprès de deux premiers ministres, auprès de Pierre Bérégovoy et de Lionel Jospin. Elle a également préparé pour la France la conférence de Rio. Elle a été responsable du débat public sur le Grenelle de l'environnement l'an dernier, et elle a été plus récemment, mais je crois que ce job est fini, membre de la commission Grand Emprunt. Alors, la question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est donc vers l'émergence d'un nouveau modèle de croissance. Le rapport parle plutôt de nouveaux modèles de croissance, au pluriel. On va voir ce qu'il en est. Ce que je vous propose, c'est que dans une première phase, chacun des participants va donner un éclairage sur les réflexions et les conclusions de ce rapport. Nous aurons ensuite un débat à la tribune et je vous donnerai la parole. Alors, vous allez vous dire, est-il encore utile de parler ou de réfléchir à un nouveau modèle de croissance, puisque, hello, hello, la croissance est de retour. Vous avez peut-être lu les journaux, la Tribune ce matin, puisque la Tribune paraît le samedi. Le titre que nous avons mis, c'est Reprise. Bonjour Bettina Laville, très heureux, donc bien arrivée. Apparemment, très bien. Voilà, donc j'ai rapidement fait la présentation et nous allons maintenant vous donner à chacun l'occasion de vous exprimer un peu en 5 minutes, 5-7 minutes sur je dirais, les apports, les réflexions ou les conclusions essentielles que vous tirez de ce rapport et nous aurons ensuite le débat. Donc je disais que la croissance est de retour, mais puisque vous avez entendu, troisième trimestre en France, nous avons eu plus 0,3%. Nous avions déjà eu plus 0,3% au deuxième trimestre. Et donc, on dit qu'on est sorti de la récession. D'ailleurs, la croissance est plus forte dans la plupart des autres pays. Les États-Unis, la Chine. Donc, je dirais que pourquoi continuer à réfléchir sur un nouveau modèle de croissance? Je crois qu'on l'a vu tout au long de la journée d'hier. Tout le monde considère que la crise n'est pas finie, que nous sommes toujours dans une phase de recherche, de mutation vers un nouveau modèle, vers deux nouveaux modèles. Donc ce sera l'objet de cette table ronde. J'espère que vous nous direz quels peuvent être les nouveaux moteurs de cette croissance, les nouveaux carburants. On sait que dans l'histoire, finalement, il y a eu l'histoire du capitalisme, l'histoire depuis la révolution industrielle, différentes phases de croissance, différentes grandes périodes qui chaque fois étaient caractérisées par de nouvelles technologies ou des vagues d'innovation technologique en particulier. On parle toujours de la machine à vapeur, de l'électricité, de l'automobile. Alors est-ce qu'aujourd'hui on a un substitut, on a d'autres technologies qui vont venir, je dirais, alimenter le moteur? Est-ce que le moteur lui-même, c'est-à-dire la manière dont s'organisent les relations entre les territoires, entre les institutions, la manière dont le travail est appréhendé, vont changer? Voilà quelques-unes des questions qui, j'espère, seront évoquées. Alors, les organisateurs soulignent bien que l'objet de cette table ronde est d'être positif, c'est-à-dire de permettre à l'ensemble de l'auditoire de voir quelles peuvent être les nouvelles tendances, les nouvelles forces qui anime ce nouveau modèle de croissance. Alors, je passe tout de suite la parole à Cécile Joly, rapporteure de ce rapport. Cécile.
Bonjour à tous et merci aussi d'être là de si bon matin. Donc effectivement, nous nous sommes interrogés sur les ressorts de la croissance et donc de l'après-crise. Le micro. Il ne marche pas, là.
Donc, Un, deux, trois.
Je disais, nous nous sommes interrogés sur les ressorts de la croissance et donc de l'après-crise. Et dans ces ressorts, traditionnellement, il y a la technologie et on pouvait s'interroger sur le fait que nous soyons sur l'essoufflement d'un cycle technologique qui aurait commencé en quelque sorte avec la crise des valeurs technologiques de 2000 et qui aurait trouvé son aboutissement dans cette crise-là, ou en tout cas une forme de prolongement. Nous avons plutôt répondu par la négative, hein, de manière assez argumentée sur le fait que, effectivement, nous avons une partie des secteurs des TIC qui est arrivée dans une phase de maturité. On peut parler de l'informatique à cet égard, mais que, d'une manière générale, on peut difficilement voir que nous sommes dans un essoufflement, mais que nous sommes plutôt dans une nouvelle phase, et dans une phase qui est à la fois plus orientée vers les services, puisque les nouvelles innovations dans les secteurs qui ont été prédominants préalablement aux années 2000, ces innovations s'orientent vers les services et donc vers la satisfaction des besoins, une application qui est plus large. Ces technologies se sont très largement diffusées aussi et qu'elles permettent ces nouvelles applications et que surtout nous sommes aujourd'hui dans une hybridation technique qui elle aussi est porteuse de nouvelles potentialités. Ces hybridations, on les voit évidemment dans les technologies environnementales, hein, puisque les technologies environnementales, ce ne sont que des technologies hybrides quasiment. Hein, quand on parle d'efficacité énergétique, on y met des technologies de l'information et de la communication. Quand on parle de nouveaux matériaux, on y met des nanotechnologies qui elles-mêmes sont des technologies hybrides. Et qu'on a eu finalement, depuis la crise des années 2000, plutôt un rendement différé de ces technologies et non pas une maturité. Et le deuxième moteur de croissance que nous avons relevé aujourd'hui, c'est une orientation plus servicielle. Alors, ce n'est pas très nouveau, hein, la tertiarisation de l'économie, vous me direz. Simplement, on est passé d'une part d'un changement des modes de consommation qui va vers la satisfaction de besoins plus fonctionnels et pas nécessairement attachés à la possession d'un bien. Et d'autre part, l'ère numérique a aussi permis un rapprochement des clients et des producteurs qui permet d'élargir la portée très largement de l'économie servicielle. Et enfin, on a une contrainte environnementale qui encourage également une économie servicielle qui, des Vélib à l'Autolib, prône plutôt la mobilité pour être moins prédatrice sur l'environnement. Et on voit bien que cette hybridation technologique et cette orientation servicielle, c'est elle qui va renouveler les secteurs qui ont été les plus touchés par la crise. Je veux parler de l'automobile et de la construction, puisque c'est dans ces deux domaines qu'aujourd'hui on voit les formes de renouvellement. Mais Bettina Laville y reviendra plus longuement tout à l'heure. Mais si les ressorts fondamentaux de la croissance ne sont pas durablement entamés, en revanche, ils sont fortement contrariés aujourd'hui par une contrainte de pouvoir d'achat qui pose un problème très inquiétant de solvabilisation d'Allemande. Alors ce problème de solvabilisation d'Allemande, il prend trois formes aujourd'hui. D'une part, l'inflation sur les ressources rares qui renchérit le coût des consommations de première nécessité et qui libère finalement peu de revenus pour les biens et services innovants. D'autre part, la part des dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, c'est les dépenses qu'on dit pré-engagées et dont on ne peut pas se libérer facilement parce qu'on est sous contrat. Alors, ça va du loyer aux dépenses d'usage de la voiture. Cette part des dépenses contraintes, elle a cessé de s'accroître au cours du temps puisqu'elle est passée de 20% du revenu en 1960 à 30% en 2006, avec une très forte surexposition des ménages modestes. Et l'économie servicielle, paradoxalement, contribue très fortement à cet accroissement des dépenses contraintes, en particulier avec les forfaits et les abonnements qui en élargissent le spectre, et on pense évidemment aux télécommunications. Au total, après avoir payé des dépenses incompressibles de logement, d'énergie, de frais d'alimentation, de transport, de santé et d'éducation, il reste moins de 300 euros à une personne qui gagne un revenu médian de 1 500 euros pour d'autres consommations de loisirs, de vacances et de consommations innovantes. Donc ça fait au final très très peu. Enfin, le problème de pouvoir d'achat s'est doublé ou s'est accentué par une montée des inégalités qui a pris des formes différentes selon les pays. Donc, dans les pays anglo-saxons, c'est une inégalité de revenus et un creusement des inégalités entre le bas et le haut de l'échelle des revenus, avec la situation emblématique des États-Unis qui ont retrouvé la même part des hauts revenus qui prévalait avant la crise de 1929. Et en France, ça s'est plutôt traduit par une précarisation du statut avec une dualisation de l'emploi sur laquelle reviendra beaucoup plus largement Henri Rouillot, avec une dualisation entre un cœur protégé et une périphérie précaire. Au total, ces nouveaux modèles de croissance potentiels, puisqu'ils ne sont pas tous diffusés de la même manière, ils posent évidemment désormais la question de leur soutenabilité sociale, puisque la flexibilité qui a été un amortisseur de la crise est aussi, accroît aussi le caractère anxiogène sur l'avenir et donc restreint les dépenses. Et puis, elle pose la question de sa soutenabilité environnementale, et Lionel Ragot y reviendra plus avant.
Merci, Cécile. Est-ce que je peux me permettre peut-être de vous poser une question pour peut-être voir à illustrer ce que vous venez de dire sur un cas concret. Le cas concret, vous l'évoquez, il était abordé largement dans le rapport, c'est l'industrie automobile. Mmh. Pour faire simple, est-ce que vous seriez prête à dire l'industrie automobile a été effectivement sur les 50 dernières années dans tous nos pays industriels et maintenant dans les pays en développement émergents un facteur de dynamisme, c'est-à-dire ça a été créateur d'emplois, créateur d'activités, ça a été ça satisfait des besoins, etc. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette industrie est morte ? Que demain, elle n'existera plus, ou en tout cas, elle n'existera plus comme elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il y a de frappant, enfin, on l'évoquait hier dans un des débats, si vous regardez les jeunes de vos enfants qui ont 15, 20, 25 ans, mais ils n'envisagent même pas de passer leur permis de conduire. Donc la relation à la voiture, qui chez nous à la tribune, les vieux, c'était un symbole, un statut social, c'était la possibilité de se déplacer, c'était formidable, etc. Mais Les jeunes, ils n'en ont plus rien à faire de la voiture. Et donc, il y a la voiture électrique, il y a la voiture écologique, il y a la voiture verte, mais au-delà, il va y avoir des modes de transport nouveaux, collectifs, l'auto... Enfin, voilà, est-ce que l'industrie automobile n'est pas morte ? Enfin, je suis un peu provocateur, mais c'est pour...
Oui, oui, non, mais l'industrie automobile n'est pas morte, bien morte. Elle est dans une phase extrêmement difficile de son histoire, puisque c'est sa plus grave crise depuis 29, hein, on peut le dire. En revanche, je ne pense pas qu'effectivement elle soit morte parce que le besoin de mobilité n'est pas mort et que les changements de comportement que vous avez évoqués sont réels, mais que ces changements de comportement sont très lents. Que la fonction de mobilité que remplit la voiture, aucun mode de transport aujourd'hui n'est capable de l'avoir. En revanche, nous allons avoir, et ça impose des infrastructures, et singulièrement des infrastructures publiques, pour que nous ayons un besoin de mobilité équivalent avec une moindre consommation ou un moindre usage de la voiture. Ça veut dire effectivement des voitures près des gares qu'on peut louer, qu'on peut prendre très facilement comme les Vélib. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire que pour un vélo. La voiture, c'est un outil technologique assez avancé, mais qui ne se stocke pas facilement. Et puis, si on est moins attaché au statut social de la voiture en France, c'est pas tout à fait vrai dans l'ensemble du monde. Hein, on est quand même très, très particulier en Europe pour ça. Et c'est franchement pas une généralité. Donc, effectivement, pour nous, le statut social en France, on peut dire, c'est plus le portable désormais que la possession de la voiture. Et puis, on possède une voiture très tardivement, hein, puisque l'âge moyen pour acheter une voiture, c'est aujourd'hui en France, c'est 50 ans. Donc, on ne sait pas quand les jeunes auront 50 ans s'ils n'en achèteront pas une.
Bon, merci beaucoup. Bon, on y reviendra peut-être. Henri Rouillot, on a évoqué l'une des questions qui est au centre des modèles de croissance. La croissance, elle est tirée par le travail, elle est tirée par l'emploi. On a évoqué les mutations, le nouveau rôle. Je vous donne la parole.
Merci. Vous m'entendez ? Donc, merci et bonjour à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé d'éclairer un peu le rapport entre cette question des nouveaux modèles de croissance et la question de l'emploi. Je ferai en fait trois séries de remarques, quelques-unes sur l'emploi avant la récession et la crise, quelques-unes sur l'emploi pendant la récession, et je terminerai par quelques-unes sur l'emploi maintenant dans la situation où nous sommes, qui est une situation dans laquelle la récession se termine, mais la crise est loin d'être terminée. Et comme ça a été un des thèmes récurrents de ces trois journées de l'économie de Lyon. Quelques réflexions d'abord sur la façon dont l'emploi se développait avant la crise et la récession que nous avons connue à partir de l'automne 2008. Et là-dessus, il faut bien voir qu'il y, il y avait plusieurs modèles de croissance. Le modèle de croissance principalement nord-américain, qui était tiré par un certain nombre de points extrêmement importants, caractérisé par le fait que le salaire médian était plat depuis de nombreuses années, une économie d'endettement et une économie tirée par la finance et l'immobilier. Dans cette situation-là, nous avions à la fois la valeur ajoutée industrielle et l'emploi industriel qui baissaient, avec très fortement et avec un système dans lequel les rapports entre les États-Unis et la Chine devenaient de plus en plus importants, avec d'un côté un déficit commercial très fort et croissant, et de l'autre côté un excédent commercial croissant. Et puis en ce qui concerne les emplois de service, une dualisation des emplois de service, avec d'un côté développement des emplois de service high-tech, et de l'autre côté un développement massif également d'emplois de service très peu qualifiés. Ça, on le trouve très bien, par exemple, chez un économiste comme Robert Reich, par exemple, qui décrit tout ça de façon extrêmement, extrêmement bonne. Vous aviez un deuxième modèle de croissance, qui était le modèle de croissance allemand et japonais, un modèle de croissance qui était tiré par les exportations, et un modèle de croissance qui était aussi tiré par des complémentarités qu'il avait su trouver. Complémentarité entre le Japon et la Chine, complémentarité entre l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est, avec à la fois des exportations industrielles, mais aussi beaucoup d'importations industrielles, et avec un phénomène très important qui est la décomposition de la chaîne de valeur à travers le développement massif de la sous-traitance. Et puis, disons, sur la France, je dirais simplement une seule chose, je dirais, n'oublions pas, et le cas français l'illustre bien, qu'il y a un lien très fort entre la croissance et l'emploi. Enfin, je dis ça par rapport, on parlait hier soir des sujets de ceux qui parlent de décroissance. Les années, par exemple, 97-2001, et on peut dire la même chose avant des années 87-91, illustrent bien le fait que l'emploi se porte bien quand la croissance se porte bien. C'est l'un des points qui est majeur et qu'il faut bien entendu avoir en tête. Alors, pendant la récession, qu'est-ce qui se passe? On voit que ces différents modèles de croissance ont tous des difficultés. Côté nord-américain, mais aussi côté britannique et côté espagnol, puisque c'était les deux pays européens qui s'étaient le plus inspirés avec l'Irlande et quelques autres de ce type de développement, la montée du chômage a été extrêmement rapide. Aux États-Unis, on est passé d'un taux de chômage de 5% à près de 10% maintenant. La montée du chômage a été extrêmement rapide. Elle a été plus lente dans d'autres pays, mais il faut voir un peu comment les choses se sont jouées. Pour l'Allemagne et pour le Japon, c'est d'abord la chute du commerce mondial qui a été le facteur de propagation de la crise et pas, dans un premier temps, la montée de l'aversion au risque et les difficultés du crédit qu'on a eues après la crise des subprimes aux États-Unis. Et puis, en Allemagne, le chômage a beaucoup moins monté. C'est le pays où il a le moins monté, bien que la récession était plus forte qu'en France, parce qu'il y a eu un développement massif du chômage partiel, qu'ils appellent Kurzarbeit en allemand, qui a été quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement jeu des stabilisateurs automatiques, mais il y a eu accroissement de ces stabilisateurs avec une politique volontariste et avec aussi le fait qu'ils disposaient plus que la France de marge de manœuvre budgétaire que nous n'avions pas su, dans la période antérieure, retrouver suffisamment. Donc, deuxième modèle qui a beaucoup souffert, c'est le modèle qui était très tiré par l'exportation, avec côté Allemagne quand même le fait que le chômage partiel a atténué les difficultés. Alors côté français, ça a été un peu déjà évoqué par Cécile, la montée du chômage a été plus faible, la récession a été plus faible, parce que nous étions à la fois moins engagés dans des activités risquées du système bancaire que les Américains, parce que les stabilisateurs automatiques de la protection sociale ont joué plus massivement. Donc la montée du chômage a été plus lente et le chômage partiel a, comme en Allemagne, mais de façon moindre, joué un rôle très positif là-dessus. Ceci étant, la dualisation du marché du travail a joué à plein et c'est massivement les précaires en CDD et en intérim qui ont été les premiers touchés par la crise et massivement donc ceux qui sont le plus parmi ces précaires intérim et CDD que sont les jeunes. Donc dans un premier temps, le cœur des employés stables a été moins touché. J'en viens à mon troisième point, donc un peu comment l'emploi se comporte maintenant dans cette situation complexe qu'est celle d'aujourd'hui, dans laquelle la récession est derrière nous. On a eu 4 trimestres négatifs et là maintenant on a eu 2 trimestres positifs. Donc la récession est derrière nous, mais où en même temps aucun des fondamentaux qui ont déterminé cette crise n'a été sur le fond résolu. Et donc tous les scénarios sont possibles, soit un scénario en L de croissance lente, soit un scénario en W avec une reprise des difficultés. Donc sans parler d'autres aspects que développeront mes collègues sur la crise écologique, puisque j'ai plus été là branché sur la dimension économique de la crise que sur la dimension écologique de la crise. Donc dans cette situation-là, la montée du chômage n'a pas fini, elle est encore devant nous. La question des restructurations va se poser de plus en plus importante, c'est-à-dire que l'aspect négatif, si je puis dire, du chômage partiel, c'est que parfois il a pu masquer le fait qu'un certain nombre de restructurations étaient nécessaires, et ces restructurations, on va les avoir devant nous. Les annonces de PSA qui ont été faites hier sont extrêmement importantes de ce point de vue-là. Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait important à bien avoir en tête et qui va renforcer ce dont parlait également Cécile tout à l'heure, qui est, disons, le caractère anxiogène de la crise, caractère qu'on peut dire double quelque part avec les travaux d'Éric Morin, qui sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là, qui sont à la fois la réalité du déclassement d'une partie de la population salariée et des actifs, et donc en particulier des jeunes peu qualifiés notamment, mais aussi d'un certain nombre de salariés dans des zones qui avaient été trop marquées par de la mono-industrie ou dans lesquelles il y a de grosses difficultés pour retrouver de l'emploi. Et puis en même temps, la peur du déclassement à un niveau beaucoup plus large, beaucoup plus massif, et beaucoup plus massif en France que dans n'importe quel autre pays développé. Et donc je pense qu'il faut à la fois là-dessus être capable d'adresser les vrais problèmes du déclassement pour réduire les problèmes de la peur du déclassement. Donc que ça pose des sujets tout à fait fondamentaux qui sont d'investir dans les compétences, d'investir dans les transitions professionnelles, de reconnaître les compétences. Il y a là tout un champ qui est important et qui doit se faire en même temps que les dimensions de recherche de nouveaux moteurs de croissance qu'on voit surtout au niveau de la dimension innovante, de la dimension verte, environnementale, dont parleront mes collègues, et aussi de la dimension, on peut dire, blanche, avec toutes les possibilités en matière de santé qui sont offertes par le vieillissement de la population. Et là aussi, il y a moyen d'hybrider un certain nombre d'aspects d'évolution de la demande sociale et d'évolution des technologies, et aussi d'un certain nombre d'avantages comparatifs de la France par rapport à d'autres pays. Voilà, merci.
Merci. Henri Noyau, j'aimerais là aussi vous poser une question, là encore peut-être un peu provocatrice et directe. Pour faire simple, le sentiment que l'on a, c'est que finalement, sur les 30 dernières années, ce qui a caractérisé l'évolution du travail, l'évolution de l'emploi, c'est qu'on a eu un phénomène de précarisation généralisée, un phénomène d'instabilité. On a le sentiment qu'il y a un accroissement du stress. Je dirais que ce n'est pas la peine d'en parler en ce moment. Vous avez évoqué cette question de la polarisation, finalement, où on aura des emplois très, très qualifiés et puis des emplois très peu qualifiés, puis entre les deux, une disparition, enfin ce déclassement, enfin ce sont des thèses qui existent et qu'on constate. Est-ce que dans le nouveau modèle de croissance, dans les nouveaux modèles de croissance qui peuvent s'ébaucher, compte tenu du fait que vous évoquiez par exemple le vieillissement, je dirais que pour soigner les personnes âgées, c'est un type de travail avec des horaires, une disponibilité, enfin c'est pas obligatoirement des qualifications, ou c'est peut-être des qualifications. Alors est-ce que le travail demain, dans un nouveau modèle de croissance, s'éloignera de ces tendances que l'on a observées sur les dernières décennies?
Je pense que c'est des tendances qui sont contradictoires. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont très très importants sur les évolutions du travail, qui sont une demande croissante de davantage d'autonomie dans le travail et en même temps un travail plus contraint. Je pense qu'il faut voir ces deux aspects-là, plus d'autonomie, plus de responsabilité, et aussi plus de contraintes par rapport au flux, plus de contraintes par rapport aux clients, plus de nécessité de coopérer avec d'autres, à la fois dans l'entreprise et dans les réseaux dans lesquels l'entreprise est impliquée. Donc ce n'est que si on tient compte de ce double aspect, travail plus autonome et travail plus contraint, qu'on peut voir comment les choses ont évolué avant la récession. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une assez grande continuité. Une des questions qu'on s'est posées dans la commission Cohen, c'est qu'est-ce que la crise révèle, en quoi elle est symptomale d'un certain nombre d'évolutions, en quoi elle va accélérer un certain nombre d'évolutions, au contraire, en quoi elle va freiner un certain nombre d'évolutions. Sur ces grandes tendances du travail, à mon avis, c'était parti bien avant l'automne 2008, et c'est des choses qui vont perdurer dans les années qui viennent.
Merci.